Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le poète tragique grec Sophocle est devenu célèbre pour son style de vie qui fut un modèle de tranquillité et d'équilibre. Parmi ses nombreuses maximes, il a dit « Ne proclamons heureux nul homme avant sa mort ». Ça ferait un super sujet de bac philo parce que c'est pas très clair. Est-on heureux parce qu'on a eu une belle mort ou une belle vie? Et qu'est-ce que ça veut dire? Selon les Écritures, quelqu'un est dit heureux pour diverses raisons, cependant il y en a une qui surpasse toutes les autres, et c'est aussi la quatrième des sept béatitudes que contient le livre de l'Apocalypse. Je continue à lire dans le chapitre 19. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Verset 9. Ici, comme pour chaque message aux sept églises, Jean reçoit l'ordre solennel de mettre par écrit ce qui va lui être révélé. Cette quatrième béatitude est parallèle à la seconde qui est « Heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur ». Ces bienheureux font partie des invités au festin de noces de l'agneau qui aura lieu sur terre au moment où Jésus établira son royaume. Mais parmi les convives seront également présents les rescapés de la tribulation et tous les croyants ressuscités de l'Ancien Testament. Les noces de l'agneau ne sont qu'une image de la réalité, mais elles reflètent bien l'union intime de Dieu avec ceux qui lui appartiennent. Ces noces seront en quelque sorte le coup d'envoi du millénium, le royaume de Dieu sur terre. Le prophète Ésaïe écrit « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là sur cette montagne un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. Et il déchirera là sur cette montagne le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. » Dans ce paradis retrouvé, il n'y aura pas de citoyens de seconde classe, et tout le monde sera content de son sort. Quel contraste avec la situation de la fin du premier siècle, quand l'apôtre Jean reçoit ces révélations. Il est banni sur l'île de Patmos, l'église est plutôt mal en point, persécutée de l'extérieur et truffée d'hérésie à l'intérieur. On peut facilement imaginer que les vérités extraordinaires que le vieil apôtre vient d'entendre lui font tourner la tête, ce qui explique pourquoi l'ange ajoute « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu ». Verset 9. Il apparaît clairement que Dieu a un plan pour l'humanité et rien ne saurait déjouer ce qu'il a décidé d'avance, et l'Église triomphera de tous ses ennemis. Jean est soulagé et interloqué à la fois. Il est si impressionné qu'il en tombe à la renverse ou plutôt à l'avant et fait n'importe quoi. Je continue. Alors, je me prosternais aux pieds de l'ange pour l'adorer. Verset 10. La révélation que Jean a reçue est tellement extraordinaire qu'il tombe aux pieds de l'ange comme il était tombé aux pieds de Jésus au tout début de la révélation quand il dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. » Alors il posa sa main sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors qu'il est tout à fait approprié d'adorer le Seigneur, l'homme ne doit en aucun cas faire un tel geste devant une quelconque créature, car c'est de l'idolâtrie. Assez curieusement, un peu plus tard, Jean va récidiver, commettre la même bévue et s'incliner devant un ange. Décidément, le bon vieil apôtre perd les pédales, à moins qu'il croit être face à une apparition du Christ, mais c'est difficile à réconcilier avec le contexte. Quoi qu'il en soit, l'ange en question reprend Jean vertement et lui dit « Ne fais pas cela, Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu. Verset 10. Que l'ange soit brillant comme le soleil et aussi puissant qu'une locomotive lancée à toute allure ne change rien au fait qu'il n'est qu'un serviteur d'abord de Dieu et ensuite des hommes. Un point, c'est tout. Le seul être qui doit être adoré est Dieu, l'Éternel et Jésus-Christ. La charte du monothéisme de la loi de Moïse ordonne « C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer, c'est à lui que tu rendras un culte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et quand Jésus a été mené dans le désert pour être tenté par Satan, le texte dit que le diable transporta Jésus encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Je continue le texte. Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre, verset 10. Aujourd'hui, l'une des fonctions particulières du Saint-Esprit est de faire connaître Jésus-Christ dans le monde et de convaincre les hommes que tout l'enseignement de la parole de Dieu est la vérité, ce qui inclut les prophéties concernant la fin des temps. Dans l'Apocalypse, le témoignage de Jésus est communiqué à Jean qui l'écrit afin que tous les croyants en prennent connaissance et soient associés à leur tour à cette fonction prophétique en témoignant à d'autres. Mais comme cela fera bientôt 2000 ans que ça dure, les fidèles du Seigneur aspirent à voir leur espérance se réaliser. En effet, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à leur Créateur, nous attendons avec impatience que Dieu remette le compteur à zéro, c'est-à-dire qu'il efface les conséquences catastrophiques de leur rébellion. À la fin des 7 années de tribulation, ce moment arrive enfin. Jésus est prêt à revenir sur terre pour triompher de tous ses adversaires et instaurer son royaume, ce qui constitue le point d'orgue de l'histoire de la rédemption. Je continue le texte. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Verset 11. Une nouvelle fois, le ciel s'ouvre devant les yeux écarquillés de Jean. Au tout début de la révélation de l'avenir, Jean a dit, « Je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix qui résonnait comme une trompette me dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ici, cependant, le ciel ne s'ouvre pas pour que Jean y entre, mais pour que Jésus en sorte, et sa venue sera remarquée car il a dit à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. » Jésus n'est plus cet agneau inoffensif, humilié, monté sur le petit d'une ânesse. Il était alors entré dans Jérusalem sur la monture royale du souverain qui vient dans la paix. Mais ici, le Seigneur est décrit comme un puissant conquérant qui monte le traditionnel cheval blanc de la victoire. C'est ainsi que le général romain qui avait triomphé de ses ennemis paradait le long de la Via Sacra, l'une des rues principales de Rome, suivi des preuves de son succès militaire, le butin et les captifs. Comme la victoire du roi conquérant est d'ores et déjà acquise, la terminologie employée est plutôt guerrière. En effet, l'agneau est désormais le roi des rois et le seigneur des seigneurs, dont les yeux flamboient comme une flamme ardente. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang et armé d'une épée aiguisée pour frapper les nations. Je continue le texte. Son cavalier, le cavalier du cheval blanc, s'appelle « Fidèle et véritable ». Verset 11. En grec, ce titre est exactement le même que celui que Jésus s'est lui-même donné quand il a dit à Jean, au messager de l'église de la Odyssée, écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique. Étant donné que le Seigneur est fidèle et véritable, Jean ajoute qu'il juge avec équité. Verset 11. Tous ses jugements sont justes et droits. La première fois que Jésus s'est révélé au monde, c'était en tant que sauveur. Mais à son retour, il sera le juge suprême du ciel et de la terre. L'apôtre Paul a dit aux Athéniens que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. À la fin de son ministère terrestre, Jésus a été arrêté, jugé et condamné comme un vulgaire criminel par des impies. Ponce Pilate, le gouverneur, le roi Hérode et les grands prêtres Anne et Caïphe. Mais à son retour, c'est lui qui jugera et condamnera tous les malfaisants de la terre, assumant même le rôle de bourreau. Jésus, roi guerrier, bourreau, ça peut surprendre. Mais dans l'Ancien Testament, le nom le plus courant de Dieu est l'Éternel des armées. Après avoir délivré les Israélites de l'armée du Pharaon, ces derniers ont chanté que l'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Et parlant de Dieu, le roi David écrit, « Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant, oui, l'Éternel vaillant dans les combats. » Et dans un psaume prophétisant le Messie, l'auteur écrit, « Guerrier plein de vaillance, porte ton épée au côté, oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire, et dans ta gloire remporte des victoires. » Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice, que ta main se signale par des actions d'éclat. Les Écritures foisonnent de guerre. Josué, David et la plupart des rois israélites se sont engagés dans des guerres de conquête ou pour défendre leur territoire. La majeure partie de l'Apocalypse, le livre qui couronne la révélation biblique, parle surtout de jugement, de conflit et de destruction. En tant que Dieu, le Seigneur Jésus lui-même est un guerrier. Il jugera la terre inlassablement jusqu'à ce que les sept sceaux soient ouverts, les sept trompettes aient retenti et les sept coupes aient été déversées. Après avoir été haï et méprisé par les hommes, Jésus s'est laissé clouer sur la croix. Puis, depuis 2000 ans déjà, il subit patiemment les moqueries, les insultes et les mauvais traitements des hommes. Mais maintenant, c'est fini. Lui, qui a scellé la paix au moyen de son sang, il fait la guerre et verse le sang. Pourtant, l'Apocalypse se termine par la paix universelle sur terre, ce à quoi tous les hommes aspirent et que Jésus va enfin établir. Je continue le texte. Il combat pour la justice. Verset 11. Jésus est à l'opposé de tous les conquérants que le monde a connus, car il n'est pas motivé par l'ambition, la soif du pouvoir, la cupidité ou un hubris démesuré. Il vient en tant que roi bienveillant pour régner. Cependant, il imposera la paix et la justice absolue au fil de l'épée, car Dieu ne peut pas tolérer indéfiniment l'injustice, la tromperie et la rébellion à son autorité. Sa patience a des limites, sinon ce serait le laisser-faire de l'indifférence. Je continue le texte. Les yeux du cavalier flamboient comme une flamme ardente. Verset 12. C'est la seconde fois que les yeux de Jésus sont décrits ainsi. En effet, il a dit au messager de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme ardente. » Ses yeux signifient que rien n'échappe à son regard pénétrant et à sa vue perçante. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dans les évangiles, on trouve aussi ses yeux qui lancent une flamme ardente quand Jésus a croisé le fer avec les pharisiens. ou quand il a chassé les marchands du temple. Mais le plus souvent, on peut y lire la tristesse et la compassion devant l'affliction des masses qui errent sans but, le pardon pour celui qui a péché, ou encore la tendresse et la joie quand des petits-enfants viennent à lui. Les mêmes yeux qui ont versé des larmes sur le sort de Jérusalem, qui ont pleuré devant l'affliction de ceux qui enterrent un proche parent, maintenant, Jean les voit briller du feu du jugement. Je continue. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Verset 12. Dans l'Antiquité, il était de bonne guerre de s'emparer de la couronne d'un roi vaincu et de la porter. C'est ce que David a fait après avoir anéanti les Ammonites. Les multiples diadèmes royaux que Jésus porte signifie qu'il règne seul sur toute la terre. Je continue. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Verset 12. Ce nom ineffable exprime la gloire du Christ au moment de son retour et de son règne. Il en a déjà été question dans la lettre à l'église de Philadelphie quand Jésus a dit « Je graverai sur le vainqueur le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Je continue le texte. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Verset 13. Ce sang qui tache la tenue de guerre du Christ est celui des ennemis qu'il a massacrés chaque fois qu'il est parti au combat pour défendre son peuple. Mais c'est aussi du sang prophétique, celui qu'il va verser pendant la campagne d'Armageddon. Ce cavalier s'appelle aussi la parole de Dieu, un titre que Jean donne à Jésus dans son évangile. En tant que seconde personne de la Trinité et fils incarné du Père, Jésus est l'expression de la pensée, de la volonté et des desseins de Dieu. Jésus est la personnification de la révélation divine. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que « le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être ». Je continue le texte. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Verset 14. Il va de soi que ces chevaux ne sont pas réels, mais ils ne sont pas imaginaires non plus. Étant donné les limites de notre compréhension des réalités célestes, ce tableau nous donne quand même une idée précise de l'événement décrit. Cette multitude montée sur des chevaux blancs et revêtue de vêtements éclatants rehausse l'aspect spectaculaire de la scène qui se déroule devant les yeux de Jean. Ces cavaliers sont les anges et l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire l'Église. Comme les croyants de la tribulation et ceux de l'Ancien Testament ressusciteront un peu plus tard, ils ne font probablement pas partie de ces armées célestes. Par contre, ils régneront également avec le Christ. Je continue. De la bouche du cavalier sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger car il les dirigera avec un sceptre de fer. Verset 15. Jean a déjà vu cette épée du jugement sortir de la bouche de Jésus au tout début de sa vision. Cette épée était tellement longue qu'elle pouvait aussi servir de lance. Elle représente la parole de Dieu et dans ce cas, la sentence de mort que le Seigneur prononcera contre ses ennemis rassemblés pour la bataille d'Armageddon. Ils seront tous massacrés et il n'y aura aucun survivant. Une fois que toutes les armées venues combattre seront éliminées, Jésus commencera son règne. Alors, les lois devront être obéies sous peine de sanctions immédiates et toute rébellion sera réprimée sur le champ. Ce sont les croyants qui administreront la justice, car au vainqueur de l'église de Thyatire, Jésus a dit « Je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Je continue. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. On a déjà eu droit à cette image quand l'ange a lancé sa faucille sur la terre et vendangé la vigne de la terre. Cette scène sanguinaire souligne l'horreur des massacres qui auront lieu à la bataille d'Armageddon. Je continue. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, « Roi des rois et seigneur des seigneurs », verset 16. C'est ici le troisième nom qui est donné au Seigneur dans ce passage. Le premier est tenu secret, le second, la parole de Dieu, rappelle son incarnation, et celui-ci, qui est un titre divin, identifie le cavalier juge, au Dieu juge. Il a déjà été appliqué à l'agneau un peu plus tôt dans la prophétie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, des attributs qui appartiennent aussi à Jésus. Je continue. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel. Verset 17. De toute évidence, les ténèbres associées à la cinquième coupe se sont dissipées puisque cet ange se tient en plein soleil et l'éclipse même en partie. Comme en plus il hurle à plein poumon, on ne peut pas l'ignorer. Je continue. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. » Versets 17 et 18. Ce passage est tiré d'une prophétie d'Ézéchiel, mais Jésus y a aussi fait allusion quand il a dit que son retour sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Avant la célébration des noces de l'agneau, aura lieu un festin macabre à l'échelle planétaire. C'est l'ultime insulte faite aux armées mobilisées pour combattre le Seigneur, et surtout aux dirigeants arrogants et aux chefs militaires puissants, car au lieu d'être enterrés avec les honneurs dus à leur rang, leurs chairs sont dévorées dans un immense banquet offert par le roi des rois aux charognards de toute la terre.